Colloque éthique. Conclusion.
Innovation, fiscalité, normes, tous les sujets ou presque ont été abordés dans ce colloque éthique a bien eu raison de mener parce que l'immobilier, ça parle à tout le monde et il y a des problèmes qui ont certes été peu abordés dans la campagne présidentielle, mais qui restent ouverts à ceux qui savent se saisir des vrais sujets. C'est le cas de Sylvain Lévy-Valenzi, cofondateur de Web Radio Édition. Je passe la parole dans un instant à la présidente d'éthique pour conclure, mais Sylvain Lévy-Valenzi, vous connaissez tous les acteurs qui ont défilé sur ce plateau, vous connaissez les enjeux et n'empêche, c'était drôlement intéressant. Qu'est-ce que vous en retenez ?
Alors moi, ce que je retiens, c'est que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a des maires bâtisseurs, la preuve. Et Jean-François Copé a fait la preuve qu'il a été réélu constamment.
Voilà. Il y a des forts taux.
Donc, hein. Vieil adage à qui il faut tordre le cou, qui dit que pour des raisons électorales, un maire ne peut pas être réélu, c'est faux. Je prends un autre exemple, le maire de Dijon, François Rebsamen, successivement réélu, qui a transformé sa ville.
Jean-Louis Borloo, dans le temps, Valenciennes.
Jean-Louis Borloo, qui a été un ministre emblématique, et qui a surtout été l'homme du Grenelle de l'environnement, l'homme de la loi SRU, l'homme de l'ANRU, et qui a financé les grands projets urbains. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque, Borloo, il parlait du plan Marshall des banlieues. Vous vous rappelez ça, Sophie ?
Oui, très bien.
Le plan Marshall des banlieues. Parce qu'il faut un plan Marshall des banlieues, vous avez raison, évidemment. Évidemment. À un moment donné, à contenir un peu comme la poussière qu'on met sur le tapis, la musée.
Enfin, il s'est un peu fait virer par Macron.
Oui, mais oui. Mais,
qui
oui.
lui avait demandé la même chose. Il est arrivé,
exactement.
Il avait fait un plan, etc. Et Macron, Emmanuel Macron, a dit on n'a pas besoin de deux mâles blancs pour reconstruire les banlieues.
Absolument.
Ça a été quand même dans le quinquennat et il a laissé tomber ça.
Et
ça
il a laissé tomber pour des raisons tout à fait arbitraires qui sont liées à une comptabilité court terme. Donc. C'est bien d'administrer la France, mais il faut aussi lui donner une vision. Et que l'administration n'est que le corollaire, finalement, d'une vision politique. Et dans une vision politique, on se doit de, à la fois, loger tous les Français. Ce que vous avez dit tout à l'heure, Sophie, est très juste. Et d'ailleurs, Jean-François Copé l'a soulevé. Il y a un mal dans les banlieues qui est un mal qui est lié, en fait, à une séparation invisible à de grande proximité. En 15 minutes, on est en banlieue. Et pourtant, on a l'impression qu'on a un univers qui nous sépare. Et la mixité, elle est fonctionnelle, mais elle est aussi sociale. Il faut lier les deux. Et l'aménagement du territoire ne se fait pas sans. Le deuxième point que je voudrais dire, c'est qu'on est sur une démographie de plus de 13 millions d'habitants supplémentaires en l'espace de 40 ans, et ça ne va pas s'améliorer. On va avoir une croissance démographique, avec un volume de logements qui se réduit de plus en plus. Que dire d'un gouvernement, d'un État, qui n'est pas capable décemment de loger ses citoyens ? Il devrait y avoir un droit inaliénable d'être logé décemment dans une démocratie.
Alors ça, Jacques Chirac a voulu le faire, le droit au logement.
Oui.
Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites. On devrait un État qui n'est pas capable de loger les gens, qui n'est pas capable de créer les conditions.
On est d'accord. Vous avez raison.
C'est pas du tout pareil.
Vous avez raison.
Et d'ailleurs, je rebondis sur ça. Un État qui doit être capable de créer les conditions, c'est-à-dire de laisser la liberté d'entreprendre à ceux qui sont capables de le faire. Je pense qu'aujourd'hui, le colloque que nous avons eu mérite d'être envoyé, et on va le faire, n'est-ce pas ?
Oh, pas gêné.
Aux candidats, en disant, mais écoutez-le, il faudrait l'envoyer aux ministres. Qui risque malheureusement d'être ministre indéfiniment, il faut l'envoyer au ministre. Je veux dire que on a tout abordé, l'immobilier de Lusque, l'incapacité de leurs encouragements ou de leurs punitions par impôts. Trois Français sur quatre qui peuvent avoir droit à un logement social. C'est un pays pauvre. Le colloque qu'on a eu, c'est le socle de l'économie sociale française aujourd'hui et de la sécurité. Et c'est extraordinaire, ça devrait être au cœur de tous les débats. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait, etc. Le deuxième point que je voudrais quand même aborder, Jean-François Copé est formidable. Et d'ailleurs, mon cher Sylvain, il nous a invités, et nous allons le faire avec Web Radio,
absolument.
À nous rendre à Meaux.
Expédition
voilà. À Meaux. Nous avons invité des patrons, nous allons inviter des constructeurs, nous allons inviter les populations et les secteurs que ça concerne. Il va nous montrer, nous faire visiter une tour avant, voir comment
avant
le paysage
soit
est organisé. Et c'est tellement important que je lui disais que C'est bien joli de dire que les collectivités locales sont formidables et les maires aussi. Quand on cite Jean-François Copé, quand on cite Jean-Louis Borloo ou Rebsamen, je veux dire, on ne peut pas dire que c'est le maire classique.
Oui,
bon, oui, mais c'est très important car ce n'est pas du tout diminuer les maires. Mmh. Et on a pu mal comprendre ce que j'ai dit, que de penser que le maire qui se fait élire au Sables d'Olonne, ou encore le Sables d'Olonne, c'est une grande ville, mais peu importe, dans une petite commune, comment voulez-vous, il a plein de qualités, il s'est fait élire, etc. Comment voulez-vous le transformer en premier flic de la commune, titulaire de la sécurité, débâtisseur, rebâtisseur, introduction de la culture? Non. Jean-François, là, est formidable, il est optimiste et c'est son rôle. Et moi, je pense très sérieusement qu'il devrait y avoir des entreprises, pardonnez-moi, c'est ma fibre, des entreprises capables de prendre des maires en formation pour leur montrer exactement ce qu'il nous a dit. Et je pense que d'ailleurs, ils pourraient faire ça, pour leur expliquer comment on s'y prend. C'est vraiment difficile, ne négligeons pas ça. Et donc, moi, j'ai été émerveillée par ce colloque, parce que tout a été abordé, y compris le luxe, y compris les exagérations de l'État, le long terme. Le président de la FNAIM, formidable, qui a une vision du bâtiment dans son ensemble. Et il ne faut pas s'arrêter là. Tout ce qui a été dit ce matin, ça doit être dit.
Mais vous savez, il y a des enjeux auxquels il faut préparer les Français. Il faut le dire à ceux qui nous écoutent. Il y a trois dates qui ont été fixées par un cadre réglementaire qui a été complètement adopté. 2023, c'est le gel des loyers pour les étiquettes énergétiques F et G. 2028 et 2034, on ne pourra plus louer les étiquettes lettres énergétiques. Il y a 7 lettres énergétiques. On en a retiré 2, bientôt 3 du marché.
Alors qu'il y a déjà une pénurie de logements.
C'est 5 millions de logements. C'est plusieurs millions de Français qui vont se retrouver dans cette... Le chantier de la rénovation énergétique, c'est plus de 100 milliards d'euros. C'est le chantier du siècle. Donc le problème aujourd'hui, c'est qu'on est enserré dans une politique
qui
est complètement déconnectée de la réalité. Et donc, si on veut fabriquer une crise sociale et avoir peut-être des gilets jaunes du logement dans la rue, il y a déjà aujourd'hui des régions de France qui commencent à s'embraser autour du logement, on va avoir un souci, sans compter qu'on a un problème de stock. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, si je devais dire une chose, je dirais foutez la paix aux entrepreneurs.
Ah, merci.
Foutez-leur la paix.
Et un autre exemple,
pardon. Et comme dirait Pompidou, le président Pompidou, cessez d'emmerder les Français. Et surtout, arrêtez de pondre, je vous donne juste un chiffre, plus de 400 000 normes empilées dans un millefeuille administratif.
Mais qui va être capable d'arrêter ça ?
Dont certaines, Sophie, sont-elles totalement contradictoires ?
Je sais.
Je prends par exemple la cave et l'hangar à vélo, par exemple. C'est une galère totale. Bien malin celui qui va s'y prendre. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on est promoteur ? Et quand on fait... Et dernière chose, vous l'avez dit, Sophie, c'est très juste de le rappeler. Les deux tiers des utilisateurs du parc locatif privé sont éligibles aux critères du logement social et d'attribution du logement social. Ça veut dire quoi ? Et je vais vous donner un autre chiffre. Vous savez qu'il y a une loi qui oblige, quand on construit un immeuble, d'avoir une réserve de logements sociaux pour un promoteur privé. Vous savez combien ils en fabriquent en France, les promoteurs privés ? 53% de la demande. C'est-à-dire qu'il y a un logement sur deux qui est fabriqué par des promoteurs privés, qu'on emmerde à tour de bras avec un zéro artificialisation nette, avec qui qu'on enferme à cause des problématiques d'empreinte carbone sur des matériaux, etc. Alors on est tous d'accord pour l'empreinte carbone et pour la transition énergétique. Mais à un moment donné, il faut faire des choix équilibrés. Et un choix équilibré, c'est qu'à un moment donné, si on confisque le débat public au niveau de la population, qui n'a plus le droit de s'exprimer, parce que la représentation nationale aujourd'hui, c'est juste une hérésie en soi. Il faut quand même bien comprendre qu'en France, nous avons des gouvernants qui sont élus avec un tiers même des suffrages globaux. Donc il n'y a pas... Aujourd'hui, on est sur, à mon avis, une conjoncture politique qui est difficile à résoudre. Et je pense que le salut viendra de l'entrepreneur. Pourquoi il viendra de l'entrepreneur ? Parce qu'aujourd'hui, entreprendre dans ce pays, c'est un sacerdoce. Et je peux vous dire que les gars, si on regarde même les salaires médians des entrepreneurs en France, qui ne sont pas aussi élevés qu'on peut le croire, et dire qu'il y a des salauds de capitalistes qui aujourd'hui accaparent le logement,
mais les Français ont compris ça. Les Français, maintenant, se réconcilient avec l'entreprise.
Alors, donnons-leur la parole, invitons-les à s'exprimer, au lieu, effectivement, comme disait Jean-François Copé, d'inviter 3 gilets jaunes qui viennent pour vous casser la gueule.
Oui, mais ça, vous êtes un média, vous n'avez qu'à en parler aux médias. Je voudrais juste ajouter quelque chose qui est très important pour aller dans le sens de ce que vous dites. Je pense, parce qu'on s'occupe évidemment au sein d'éthique des entrepreneurs et de l'intégration des handicapés. Dans les bureaux, et dans certains logements bien sûr, les normes sont telles pour accueillir des handicapés que c'est totalement dissuasif. C'est-à-dire que je l'ai vécu moi-même, tout était réglé au premier étage, mais il n'y avait pas un escalier roulant spécial ou un ascenseur spécial pour monter, éventuellement un fauteuil roulant, etc. On peut parfaitement adapter des bureaux et des logements pour les handicapés sans avoir mis des normes, mais qui sont complètement délirantes.
Alors moi, j'abonde complètement ce que vous dites, Sophie. Vous avez fondamentalement raison, parce qu'à un moment donné, en fait, l'énergie que vous avez, l'enthousiasme pour aider que vous avez, on va vous l'enlever.
Mais voilà.
À cause de cette coercition. Et le problème, c'est que le public de l'extérieur, et vous avez raison, les médias le disent, c'est que du coup, ils vont vous taxer finalement d'éléments réactionnaires en disant, oui, mais là, vous êtes sur un dogme capital, etc., etc. C'est faux. En fait, à un moment donné, il faut laisser la capacité aux gens à pouvoir le faire. C'est ce que font les Allemands. Les Allemands le font avec les entreprises. La pratique de l'échelle mobile entre le pouvoir salarial et le pouvoir patronal fonctionne très bien en Allemagne. On n'est pas capable d'avoir cette concertation en France parce qu'on est dans la France de la division. Et donc, à un moment donné, il va falloir... je pense même qu'il faudrait reconnaître le statut même de l'entrepreneur dans ce pays. Sur l'égalité des droits. Parce qu'aujourd'hui, il y a une iniquité fiscale à l'égard des entrepreneurs, une iniquité sociale à l'entrepreneur. Un entrepreneur aujourd'hui qui cesse son entreprise, qui coule, il n'est plus rien. Il est SDF, il n'a droit
N'oublions
à rien.
N'oublions pas qu'il n'a pas de chômage. C'est quand même extraordinaire, sauf s'il cotise.
Vous rendez compte, la différence de traitement pour un pays démocratique, c'est même pas croyable.
Aujourd'hui, entre un fonctionnaire hyper protégé, le statut de fonctionnaire donné à n'importe qui et à tout le monde...
Les salariés des grandes entreprises sont à peine 30% du tissu national économique. Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce pays fonctionne avec les deux tiers
alors
d'entreprises
de TPE, de PME. Alors que nous payons les retraites de nos fonctionnaires. Mais
Absolument.
On rentre dans
alors,
un autre débat.
Alors, je conclue sur l'immobilier.
Mais c'est toujours passionnant.
Oui, le logement méritait un vrai débat. S'il n'a pas eu tout à fait lieu dans la campagne présidentielle. Il a lieu sur le site d'Éthique et de Radio Immo parce qu'il a un impact sur notre vie. Vous savez, Sophie, qu'en Corée du Sud, l'impossibilité pour les jeunes de se loger et de fonder une famille a entraîné carrément une crise de la natalité. Donc vous avez raison d'avoir choisi ce sujet. C'est plein d'impact. Vous n'avez pas mis votre gilet jaune, mais votre magnifique veste jaune. Et donc je vous laisse le mot de la conclusion,
Et merci
Sophie.
À Éthique, d'ailleurs, de porter haut et fort toutes ces problématiques humaines, démocratiques et urbaines. Dans le débat public. Je trouve ça remarquable.
Et grâce à Web Radio.
Merci.
Voilà, c'était le mot de la fin. Crucial pour le budget des ménages. Le logement représente en moyenne 25% des dépenses de ceux qui accèdent à la propriété, 30% de celles des locataires. Pourtant, on en a peu parlé dans la campagne. Heureusement, c'est pas fini. Allez, on peut y croire. Merci, n'oubliez pas de voter. Merci à nos invités. Merci Sylvain Lévy d'avoir accueilli ce débat extrêmement dense.
Bravo Fabienne, vous êtes exceptionnelle.
Sophie de Menton, merci. Vous êtes ma maman, je vous remercie.
Oh non.
Ben non, mais je veux dire, quand vous me faites des compliments à longueur de journée, je ne sais que dire. Allez, c'est trêve de plaisanterie. Un prochain débat très bientôt, on l'espère, car les sujets ne manquent pas et les invités sont de très grande qualité quand ils sont invités par Éthique. Merci beaucoup, au revoir.
Qui veut tuer l'immobilier en France ? Un colloque Éthique en partenariat avec Web Radio Édition, mercredi 13 avril 2022.